Chapitre 24. Du miel dans l'infusion. Depuis le début, Egwene savait que son étrange captivité serait pénible. Pourtant, elle avait cru qu'accueillir la douleur à la manière des aïels serait la partie la plus facile. Quand elle avait dû s'acquitter de son taux auprès des matriarches, pour avoir menti, n'avait-elle pas été frappée par chacune de ses femmes? En conséquence, elle ne manquait pas d'expérience. Mais accueillir la douleur, ça ne signifiait pas seulement l'accepter au lieu de la combattre. Il fallait la prendre en soi et l'embrasser comme une part de son être. Selon Avienda, au zénith de la souffrance, on devait rester capable de sourire, de rire ou de chanter, et ce n'était pas facile du tout. Le premier matin, avant l'aube, dans le bureau de Sylviana, elle fit de son mieux, pendant que la maîtresse des novices martelait ses fesses nues de coups de savate, un modèle avec une semelle très dure. Elle ne tenta pas de ravaler ses sanglots, puis ses cris inhumains. Quand ses jambes voulurent battre dans le vide, elle ne les empêcha pas, jusqu'à ce que Sylviana les coince sous une des siennes, non sans peine, parce que sa jupe l'entravait. Après, Egwene permit à ses doigts de pied de frapper le sol, pendant que sa tête oscillait follement de gauche à droite. De toutes ses forces, elle essaya d'attirer la souffrance en elle, de l'aspirer comme de l'air. La douleur, c'était une part de la vie, au même titre que la respiration, en tout cas, selon la vision du monde des aïels. Peut-être, mais qu'est-ce que ça faisait mal? Quand elle put enfin se relever, après une petite éternité, elle fit la grimace lorsque son jupon et sa robe entrèrent en contact avec sa chair à vif. La laine blanche semblait peser du plomb. Là aussi, elle tenta d'accepter la sensation cuisante. Mais ça se révéla difficile, terriblement même. Pourtant, il lui sembla que ses sanglots s'arrêtaient vite, et sans qu'elle doive fournir d'efforts de volonté. Pareillement, ses larmes furent rapidement taries. Sans se tordre les mains de douleur, ni pleurnicher, elle se regarda dans le miroir mural à la dorure écaillée. Au fil des années, combien de milliers de femmes s'étaient contemplées ainsi? Après une séance de rééducation, il était obligatoire de se regarder et de réfléchir au motif de sa punition. Mais Egwene détourna ce rituel. En étudiant son visage, rouge pivoine, elle vit surtout un calme évident. Malgré la souffrance sur son postérieur, elle se sentait très composée. Une petite chanson peut-être? Non, il ne valait mieux pas. Sortant un mouchoir de sa manche, elle entreprit de s'essuyer les joues. Sylviana l'observa, l'air ravi, puis rangea la savate dans un tiroir de la commode.
« Je crois avoir retenu ton attention dès le début, sinon j'aurais frappé plus fort. »
Elle tapota distraitement son chignon.
« À mon avis, je ne te reverrai pas de si tôt. Peut-être aimeras-tu savoir que j'ai posé des questions, comme tu le demandais. Mais l'arrêt aussi en pose. La femme est bien Léane Sharif, même si j'ignore comment elle est arrivée là. »
Sylviana secoua la tête, tira la chaise placée derrière son bureau et s'assit.
« Elle s'inquiétait plus pour toi que pour elle. Pendant ton temps libre, tu pourras lui rendre visite. » Si tu en as du temps libre. Je donnerai des instructions. Elle est dans une cellule ouverte. À présent, tu devrais filer, si tu veux avaler quelque chose avant ton premier cours.
Merci,
dit Egwene en se tournant vers la porte. Sylviana lâcha un gros soupir.
Pas de révérence, mon enfant?
Après avoir trempé sa plume dans son encrier à support d'argent, elle écrivit quelques mots dans le registre des punitions.
Je te reverrai à midi. Tes deux premiers repas à la tour, tu les prendras sans t'asseoir, j'en ai peur.
Egwene aurait pu en rester là, mais pendant la nuit, alors qu'elle attendait que les représentantes soient réunies dans le hall du monde des rêves, elle avait arrêté une stratégie. Elle devait combattre, certes, mais en faisant mine de capituler. Jusqu'à une certaine limite, en tout cas, fixée par elle-même, bien entendu. Refuser tous les ordres l'aurait fait passer pour une folle furieuse, avec une probable incarcération qui l'aurait rendue inutile. Mais elle se cabrerait dès qu'on s'en prendrait à sa dignité. Sinon, elle finirait par craquer. Pour résumer, elle devait empêcher ses ennemis de lui faire oublier qui elle était.
« La chair d'Amerline ne s'incline devant personne, »
dit-elle, très calme. La réaction de Sylviana ne se fit pas attendre, comme c'était prévisible.
« Je te verrai avant le dîner également, »
elle écrivit de nouveau dans son registre.
« Je te conseille de partir sans ajouter un mot, si tu ne veux pas passer la journée pliée en deux sur mes genoux. »
Egwene sortit en silence, sans s'incliner. Un vrai numéro de funambule, sur un fil tendu au-dessus d'un abîme. Mais il n'y avait pas d'autre solution. De manière assez surprenante, Alviarine faisait les 100 pas dans le couloir. Enveloppée dans son châle blanc, elle tentait de se réchauffer, les bras enroulés autour du torse. Pour l'heure, elle fixait quelque chose dans le lointain. Egwene savait qu'Alviarine n'était plus la gardienne d'Alaïda. Sur les raisons de sa disgrâce, elle ignorait tout. Espionner en Tel Aranriod ne permettait pas de glaner des informations précises, parce que cet univers n'était qu'un reflet brouillé du monde réel. Alviarine avait dû l'entendre crier. Bizarrement, Egwene n'en éprouva pas de honte. À sa façon, elle livrait une bataille, et durant une guerre, on récoltait des blessures. La sœur Blanche, en principe glaciale, semblait un peu plus chaude que d'habitude. À dire vrai, on aurait même pu la croire nerveuse, avec ses yeux brillants et ses lèvres légèrement écartées. Et Gwen ne se fendit pas d'une révérence. Contre toute attente, Alviarine se contenta de la foudroyer du regard avant d'entrer dans le bureau de Sylviana. Une sacrée bonne stratégie, donc. Un peu plus loin dans le couloir, deux sœurs rouges observaient de loin. L'une au visage rond, l'autre mince comme une liane, elles exposaient agressivement les franges de leur châle. Pas les mêmes sœurs qu'au réveil des Gwen. Cela dit, elles n'étaient pas là par hasard. Des geôlières? Non, pas exactement, mais pas le contraire non plus. Et Gwen continua sa grève de la révérence. Chez ces femmes-là, elle n'obtint aucune réaction. Après 10 pas dans le couloir, elle entendit des cris de douleur monter du maudit bureau. Ainsi, Alviarine aussi était en main, en s'en sortant très mal, si elle criait si fort après quelques minutes. Sauf si elle entendait aussi accueillir la douleur, ce qui semblait très improbable. Mais pourquoi Alviarine était-elle punie si durement, si ce n'était pas une pénitence volontaire? En temps de guerre, un général disposait d'espions et d'éclaireurs. Et Gwen ne pouvait compter que sur elle-même et le peu qu'elle glanait dans le monde des rêves. Dans sa position, le moindre fragment d'information pouvait être utile. Donc, elle ne devait pas cesser de fouiner. Retard au petit déjeuner ou non, elle retourna dans sa cellule de novice et prit le temps de se débarbouiller et de se peigner. Rangé dans sa bourse, son peigne était un des rares objets personnels qu'on lui avait laissés. Pendant la nuit, ses vêtements avaient disparu, remplacés par une robe blanche. Cela dit, les autres robes blanches qui pendaient dans l'armoire étaient les siennes. Rangée proprement lorsqu'elle avait atteint le grade d'accepter, elle portait toujours son nom, brodé sur une petite étiquette cousue dans l'ourlet. La tour ne gaspillait jamais rien. Qui pouvait dire quand une nouvelle novice aurait besoin d'une garde-robe? Avoir uniquement des tenues blanches à sa disposition ne faisait pas des Gwen une novice. Quoi que puisse espérer Elaïda et ses âmes damnées. Quand toute rougeur eut disparu de ses joues, sa sérénité intérieure se reflétant sur son visage, Egwene sortit de sa cellule. Lorsqu'on disposait de peu d'armes, l'apparence pouvait en être une. Les deux sœurs rouges étaient là, prêtes à la suivre comme son ombre. Le réfectoire des novices se trouvait au premier niveau et jouxtait les cuisines principales. Très grande salle aux murs blancs, c'était un lieu ordinaire, même si les dalles du sol reprenaient les 7 couleurs des ajats. Chacune des nombreuses tables munies de bancs pouvait accueillir entre 6 et 8 convives. Une centaine au moins de filles en robe blanche prenaient leur petit déjeuner en bavardant. Et Elaïda devait se rengorger. Depuis des décennies, la tour n'avait plus compté autant de novices. De toute évidence, le schisme avait généré des vocations. Et Gwen ne fut pas impressionnée. Ces femmes remplissaient le réfectoire à demi seulement, et il y en avait un autre plus haut, fermé depuis des siècles. Quand elle aurait conquis la tour blanche, les secondes cuisines seraient rouvertes, et il y aurait toujours besoin de plusieurs services. Une situation inédite depuis les guerres des Trollocs. Dès qu'Egwen fut entrée, Nicolas la repéra, apparemment elle l'attendait, et gratifia d'un coup de coude les novices qui la flanquaient. Par vagues, le silence s'abattit sur les tables et toutes les têtes se tournèrent vers la prisonnière, tandis qu'elle remontait l'allée centrale sans regarder à droite ni à gauche. À mi-chemin de l'entrée des cuisines, une petite et mince novice aux longs cheveux noirs fit un croc en jambe à Egwen. Manquant cette allée, celle-ci reprit très vite son calme et sa dignité. Une autre escarmouche. La novice coupable avait le teint pâle d'une kairiénienne. De si près, Egwen sentit qu'elle était prête pour l'épreuve d'accepter. Sauf si elle avait des lacunes cachées, mais pour les détecter, il n'y avait pas plus perspicace que la tour.
« Comment t'appelles-tu »
demanda Egwen.
« Alvister !»
répondit la novice, son accent confirmant son apparence.
« Pourquoi veux-tu le savoir? Pour te plaindre à Sylviana? Peine perdue, ça. Toutes les filles jureront qu'il ne s'est rien passé.
C'est une honte, Alvister. Tu veux devenir une Aes Sedai, donc renoncer aux mensonges? Mais tu pousses les autres à mentir pour toi. Ne vois-tu pas que c'est illogique ?
Alvister s'empourpra de colère.
Qui es-tu pour me faire un serment ? La chair d'Amirlin. Prisonnière, certes, mais ça ne change rien.
Alvister écarquilla les yeux. Tandis qu'Egwen marchait vers les cuisines, des murmures coururent de table en table. Personne ici n'aurait cru qu'elle continuerait à revendiquer le titre alors qu'elle portait du blanc et vivait dans le quartier des novices. Egwen avait tenu à les détromper au plus tôt. Dans les grandes cuisines, les broches, à cette heure, ne tournaient pas dans les multiples cheminées. Cela dit, les poêles et les fours dégageaient tellement de chaleur qu'Egwen, si elle n'avait pas su comment éviter ça, aurait transpiré à grosses gouttes. En ces lieux, elle avait travaillé plus d'une fois, et nul doute qu'elle recommencerait. 2 autres réfectoires jouxtaient la grande salle, celui des acceptés et celui des Aes Sedai. La maîtresse des cuisines, la race, suait sang et eau, dans son tablier blanc immaculé, où on aurait pu tailler 3 robes de novice. Sa louche brandie comme un sceptre, elle dirigeait un régiment de cuisinières, d'aides cuisinières et de filles de cuisine. Excitée, son personnel la servait comme il eût servi une reine, voire mieux. peu de reines caressaient l'échine de leurs sujets à coups de louche pour les faire trimer plus vite. Une bonne partie de la nourriture sortait des cuisines sur des plateaux d'argent ou de bois sculptés, portés par des servantes anxieuses de satisfaire les exigences des sœurs. Il ne s'agissait pas de simples filles de cuisine, avec la flamme de Tarvalon sur la poitrine, mais de servantes dédiées aux sœurs, en livrées bien coupées, et même parfois ornées de broderies, dont une bonne partie ferait le long chemin jusqu'au quartier des Ajats. Toute sœur pouvait manger dans sa chambre si elle le désirait. Cela dit, il fallait canaliser pour réchauffer les plats. En règle générale, les Aes Sedai préféraient se restaurer dans la salle à manger d'honneur, en tout cas par le passé. La longue procession de femmes lestées d'un plateau confirmait que la tour blanche se lézardait de l'intérieur. Ce spectacle aurait dû ravir la seconde chair d'Amyrlin. Elaïda se tenait sur un piédestal qui menaçait de s'écrouler sous elle. Mais la tour blanche était le foyer d'Egwen. Face au désastre, elle avait simplement le cœur serré et envie de souffleter Elaïda. Pour ses forfaits, depuis qu'elle détenait l'étole et le sceptre, cette femme méritait 100 fois d'être renversée. La race dévisagea longuement Egwen, hocha la tête en faisant osciller ses multiples mentons, puis se détourna pour brandir sa louche sous le nez d'une nette cuisinière dont elle supervisait le travail. Jadis, la race avait aidé Siouan et Léane à s'enfuir. La preuve qu'elle ne portait pas Elaïda dans son cœur. S'engagerait-elle pour quelqu'un d'autre? Pour l'instant, elle s'efforçait surtout de ne plus regarder dans la direction des Gwen. Une aide cuisinière, qui ne la distinguait sûrement pas des autres novices, tendit à Egwen un plateau lesté d'une tasse d'infusion fumante et d'une grande assiette de pain, d'olives et de fromage, une variété à pâte dure qui s'émiettait un peu. Son petit déjeuner récupéré, Egwen retourna dans le réfectoire. Le silence y tomba de nouveau, et tous les regards se rivèrent sur elle. Bien entendu, toutes les femmes savaient qu'elle sortait du bureau de la maîtresse des novices. Allait-elle se restaurer debout? Bien qu'elle eût envie de s'asseoir sur des œufs, Egwen s'installa tout à fait normalement. Une catastrophe pour son pauvre postérieur. Pas une torture comme un peu plus tôt, mais une épreuve assez rude pour qu'elle se tortille un peu avant de reprendre le contrôle de ses mouvements. Bizarrement, elle n'éprouvait aucun désir de faire la grimace. Se lever, oui, mais rien d'autre. La souffrance, elle l'acceptait sans combattre. Mieux, elle tentait de l'accueillir à bras ouverts. Mais sur ce point, elle avait encore des progrès à faire. Quand elle rompit son pain, Egwen s'avisa que les charançons régnaient aussi en maître ici. Dans la salle, les bavardages reprirent, à voix basse, parce que les novices devaient rester discrètes en toutes circonstances. À la table de la prisonnière, il en alla comme partout ailleurs. Mais personne ne tenta de l'inclure dans la conversation. Pas de quoi se plaindre, en réalité. Egwen n'était pas là pour se faire des amis, et encore moins pour que les novices la cooptent. Son objectif était bien différent. Son repas fini, elle rapporta le plateau aux cuisines, puis sortit au milieu d'un flot de novices. Dans le couloir, un autre duo de sœurs rouges l'attendait. Egwen reconnut Catherine Alroudin, en robe grise à rayures rouges, ses cheveux ailes de corbeau cascadant jusqu'à sa taille et son châle drapé sur les avant-bras.
« Bois ça !»
dit-elle, en tendant un gobelet en étain à Egwen.
« Jusqu'à la dernière goutte !»
L'autre sœur rouge, la peau noire et le visage carré, tira sur son châle et fit la grimace. À l'évidence, elle détestait jouer les servantes, même par association. Ou manifestait-elle son dégoût pour le contenu du gobelet? Egwen ravala un soupir et but. L'infusion de fourche racine, assez claire, avait un goût d'eau amère, relevé d'un rien de menthe. Peu après son réveil, Egwen avait eu droit à sa première dose. Servie par des sœurs rouges pressées de laisser se dissiper le bouclier qui l'enveloppait pour retourner à leurs occupations. Catherine avait laissé passer l'heure de peu. Mais même sans le breuvage, Egwen n'aurait pas pu canaliser avec la puissance requise pour que ce soit utile.
« Je ne veux pas être en retard pour mon premier cours, »
dit-elle en rendant le gobelet à Catherine. L'air étonné que tout se passe si bien, la sœur rouge le prit. Avant qu'elle ait le temps de faire une réflexion ou d'exiger une révérence, Egwen emboîta le pas aux autres novices et s'éclipsa. Le premier cours, donné dans une salle sans fenêtre où 10 novices occupaient des bancs prévus pour une 30aine au minimum, fut le désastre qu'anticipait Egwen. Pas pour elle, même si elle risquait d'en subir les conséquences. Idrel Menford, la formatrice, était déjà une acceptée lors de l'arrivée d'Egwen à la Tour Blanche. Mince, les yeux très durs, elle portait toujours la robe blanche ornée des 5 couleurs au poignet et à l'ourlet. Sans ménager son postérieur, Egwen prit place au bout d'un banc. La douleur, constata-t-elle, s'estompait un peu.
Embrasse la souffrance.
Perchée sur une petite estrade, face au banc, Idrel, au long nez, ne cacha pas sa satisfaction de revoir Egwen en tenue de novice. De joie, elle en parut moins renfrognée, un jour à marquer d'une pierre blanche.
« Vous êtes toutes bien au-delà des simples boules de feu, »
dit-elle aux élèves.
« Mais voyons de quoi est capable notre nouvelle. Elle a toujours eu une très haute opinion d'elle-même, il faut le savoir. »
Plusieurs novices gloussèrent stupidement.
« T'es une boule de feu, Egwen. Allez, mon enfant !»
Une boule de feu? Un des premiers tissages qu'apprenaient les novices. Où voulait en venir Idrel? S'unissant à la source, Egwene se laissa envahir par un flot de Saïdar. Enfin, un filet plutôt, à cause de la fourche racine. Quoi qu'il en soit, il s'agissait de pouvoir, et l'effet fut le même que d'habitude. Exalté, Egwene eut soudain une conscience décuplée de son propre corps et de tout ce qui l'entourait. Dans le processus, ses fesses lui refirent mal, comme si elle venait de sortir du bureau de Sylviana. Mais elle ne se tortilla pas sur son banc.
« Aspire la douleur. »
Egwene sentit l'odeur de savon qui émanait des novices après les ablutions du matin. Sur le front d'Hydrel, elle vit pulser une petite veine. Si elle s'était écoutée, elle aurait frictionné les oreilles de la sœur avec un flux d'air. Mais en l'état actuel des choses, Hydrel s'en serait à peine aperçue. Docile, elle tissa un mélange de feu et d'air pour générer une petite boule de feu vert qui lévita devant elle. Une boulette, plutôt, presque transparente.
« Très bien !»
ironisa Hydrel. Compris. Elle avait voulu montrer aux novices la faiblesse de leur nouvelle condisciple.
« Coupe-toi de la source !»
ordonna-t-elle.
« À présent, vous toutes !»
Egwene ajouta une boule bleue, une blanche, une marron et une grise, puis les fit tournoyer dans l'air.
« Coupe-toi de la source !»
répéta Hydrel. Une boule jaune vint se joindre aux autres, puis une rouge. Aussitôt après, Egwene entoura les boules de plusieurs anneaux de feu concentriques. Le rouge arriva en premier, parce qu'il devait être le plus petit. Puis les autres suivirent, le vert survenant à la fin, le plus grand et le plus beau de tous. Si Egwene avait pu choisir un aja, ça aurait été celui-là. 7 anneaux de feu se mirent à tourner, un dans le sens des aiguilles d'une horloge, l'autre dans la direction inverse et ainsi de suite, autour des 7 boules engagées dans un balai sophistiqué. Si palichon que soit les tissages, produire 14 flux en même temps n'était pas banal. Mais jongler avec le pouvoir, ça, c'était un véritable exploit.
« Arrête !»
cria Hydrel.
« Stop !»
L'aura du Saïdar enveloppa la formatrice et une lanière d'air s'abattit dans le dos d'Egwene.
« Je t'ai dit d'arrêter !»
La lanière frappa de nouveau, encore et encore. Très calme, Egwene continua à générer son manège de couleurs. Après les coups de Sylviana, ceux d'Hydrel étaient très faciles à encaisser, voire à accueillir. Songeuse, Egwene se demanda si elle serait un jour capable de sourire pendant qu'on la tabassait. Les 2 sœurs rouges apparurent dans l'encadrement de la porte.
« Que se passe-t-il »
demanda Catherine. Sa compagne écarquilla les yeux quand elle vit la création d'Egwene. Diviser autant ses flux, elle n'en était sans nul doute pas capable. Quand les 2 Aes Sedai entrèrent, toutes les novices se levèrent puis s'inclinèrent, à part Egwene, bien entendu.
« Elle refuse d'arrêter !»
s'écria Hydrel, rouge de rage.
« Je le lui ai ordonné, mais elle s'en fiche !»« Egwene, stop !»
cria Catherine. Egwene attendit que la sœur rouge ouvre de nouveau la bouche. Là, elle lâcha le Saïdar et se leva enfin. Catherine ravala ses imprécations et inspira profondément. Sur son visage, on ne voyait pas trace de colère, mais ses yeux étaient en flammes.
« File voir Sylviana et dis-lui que tu as perturbé une classe et désobéi à ta formatrice. Exécution !»
Après avoir pris le temps de tirer sur sa jupe, quand elle finissait par obéir, elle ne devait pas se hâter, Egwene se glissa entre les 2 sœurs rouges et s'engagea à petits pas dans le couloir.
« Je t'ai dit de filer !»
siffla Catherine dans son dos. Un flux d'air percuta le postérieur encore sensible d'Egwene.
« Accepte la douleur. »
Un autre coup.
« Aspire-la comme de l'air. »
Un troisième, assez fort pour faire tituber sa cible.
« Embrasse la souffrance. »«
Jezrail, cesse de me bloquer !»
rugit Catherine.
« Pas question !»
répondit l'autre sœur rouge avec un accent terrien prononcé.
« Tu vas trop loin, Catherine. Un coup ou deux, d'accord. Mais là, c'est à la maîtresse des novices de la punir. Si tu continues, elle ne pourra pas marcher jusqu'au bureau de Sylviana. »«
D'accord. »
capitula Catherine, le souffle court.
« Mais à sa liste de méfaits, elle devra ajouter offense à une sœur. Je vérifierai, Egwene. Ne pense pas pouvoir oublier. »
Quand la prisonnière déboula dans son bureau, Sylviana n'en crut pas ses yeux.
« Encore ? Et si vite ? Sors la savate de la commode, mon enfant, et dis-moi ce que tu as fait. »
Après 2 autres cours et autant de passages dans le maudit bureau, Egwene refusait qu'on se moque d'elle, et si une acceptée détestait être moins compétente qu'elle, et bien qu'elle s'abstienne de lui demander un tissage, sans compter le rendez-vous prévu à midi, Sylviana décida que sa victime bénéficierait d'une guérison chaque matin.
« Sinon, je ne pourrais plus cogner sans te faire saigner. Mais ne va pas croire que je t'ai la bonne. S'il te faut 3 guérisons par jour, je frapperai plus fort pour compenser. Et si nécessaire, je passerai la badine ou au fouet. » « Je te materai, ma fille. Fais-moi confiance sur ce point. »
Ces 3 cours, avec chaque fois une acceptée rouge de honte, eurent une autre conséquence. Désormais, Egwene aurait droit à des leçons particulières dispensées par des sœurs, un privilège d'habitude réservé aux acceptés. Du coup, elle dut remonter les longs couloirs en spirale qui menaient au quartier des Ajats, devant lesquels des sœurs semblaient monter la garde. En réalité, c'était exactement ça. Pour chacun des 6 groupes encore présents à la cour, les visiteuses d'autres Ajats n'étaient pas bienvenues, un sacré euphémisme. À vrai dire, Egwene ne vit jamais une sœur rôder dans les environs du quartier d'un autre Ajat que le sien. À part les représentantes, toutes les Aes Sedai se déplaçaient en groupe, leurs châles sur les épaules et leurs champions à la traîne. Mais ça n'avait rien à voir avec la peur compréhensible qui régnait dans le camp. Ici, les Aes Sedai se rassemblaient par Aja, et quand 2 groupes se croisaient, ils se regardaient de travers, quand ils ne se défiaient pas carrément des yeux. Au plus chaud de l'été, la Tour Blanche était plus glaciale que jamais, avec une fébrilité incroyable dès que 2 sœurs d'Aja différents se rencontraient. Même les représentantes qu'Egwene reconnut pressaient nerveusement le pas. Les rares qui l'identifièrent la dévisagèrent, mais la plupart se révélèrent trop distraites pour s'apercevoir de sa présence. Représentante de l'Aja rouge, Pevara Tazanovni, une jolie femme bien en chair, manqua de peu la faire tomber. Pas question qu'elle s'écarte, même pour une représentante, mais Pevara, simplement, ne l'avait pas vue. Une autre fois, Doesin Alwayne, très élégamment vêtue, mais d'une maigreur de garçon, la bouscula alors qu'elle était en grande conversation avec une autre sœur jaune. Aucune des 2 femmes ne regarda plus d'une seconde la captive, qui regretta de ne pas en savoir plus sur l'identité de la compagne de Doesin. Egwene connaissait les noms des 10 espionnes que Shiryam et les autres avaient infiltrés à la tour pour couper l'herbe sous le pied des Laïda. Entrer en contact avec elles aurait été précieux, hélas, elle ignorait à quoi elles ressemblaient. Bien entendu, demander à leur parler aurait attiré l'attention sur elles. Logiquement, l'une d'entre elles aurait dû l'attirer à l'écart ou y faire passer un message, mais elle attendit en vain. Sauf si elle parvenait à mettre un visage sur chaque nom, son combat, elle devrait le livrer seule. Si on acceptait Léane, bien sûr. Cet allié, elle ne la négligeait pas, évidemment. Dès sa 2e nuit à la tour, après le dîner et malgré son extrême lassitude, elle était descendue au sous-sol. C'était là que se trouvaient les 6 cellules où on retenait les femmes capables de canaliser, quand elles n'étaient pas condamnées à l'isolement. Chaque pièce contenait une cage de fer ajourée qui occupait l'espace du sol au plafond, avec un corridor large de 4 pas autour et des lampes à déflecteurs pour fournir assez de lumière. Dans la cellule de Léane, 2 sœurs marrons montaient la garde, assises sur des bancs. Un champion leur tenait compagnie. Large d'épaules, les tempes argentées, cet homme d'une frappante beauté leva les yeux quand Egwene arriva, puis il recommença à passer sa dague sur une pierre à aiguiser. Egwene reconnut une des 2 sœurs, Felaana Bevein, une jolie blonde dont les cheveux brillaient comme si elle les brossait plusieurs fois par jour. Cessant d'écrire dans un carnet posé sur ses genoux, elle marmonna de sa voix rauque.
« Tiens, te voilà. Sylviana nous a dit que tu peux la voir, mon enfant. Mais ne lui donne aucun objet sans le montrer d'abord à Dalévienne ou à moi. Et ne fais pas de grabuge. »
Sur ces mots, Felaana recommença à écrire. Femme robuste aux cheveux noirs grisonnants, Dalévienne ne leva à aucun moment les yeux des 2 livres, l'un ouvert sur ses genoux, dont elle comparait les textes. L'aura du Saïdar l'enveloppant, elle maintenait un bouclier autour de Léane. Une fois cette protection tissée, elle n'avait aucune raison de la regarder. Egwene se précipita, passa les mains à travers les barreaux et saisit celle de Léane.
« Selon Sylviana, »
dit-elle en riant,
« la tour croit enfin que tu es qui tu dis être. Mais je ne m'attendais pas à te voir incarcéré dans un tel luxe. »
Luxe s'entendait uniquement quand on comparait avec les cellules minuscules et sombres où une sœur croupissait en attendant de passer en jugement. Avec une paillasse en guise de lit et une couverture quand on avait de la chance. À cette aune, la cage de Léane aurait pu passer pour une chambre de palais. Le lit, par exemple, semblait plus moelleux que ceux des novices. Sur une petite table, 3 livres reposaient à côté des restes du dîner. En plus d'un fauteuil à dossier droit muni d'un coussin bleu à pompons, Léane disposait d'un coin toilette, avec des accessoires ébréchés et un miroir plein de bulles, et un paravent la dissimulait lorsqu'elle avait besoin du pot de chambre.
« Oui, je suis très populaire ici, »
fit Léane en riant elle aussi. Malgré sa robe de laine noire ordinaire, tout dans son allure et son comportement évoquait l'image standard d'une domanie séduisante et langoureuse. Quant à sa voix pleine de charme, elle correspondait à l'image qu'elle entendait désormais donner d'elle-même.
« Toute la journée, le flot de visiteuses ne se tarit pas. Des membres de tous les Ajats, à part le rouge. Les sœurs vertes tentent de me convaincre de leur apprendre à voyager, et elles voudraient me mettre la main dessus parce que, selon elles, je revendique d'être une sœur verte désormais. »
Léane frissonna. Trop ostentatoirement pour que ce soit vrai.
Ce serait aussi cauchemardesque que d'être de nouveau avec Mélaré et Dessala. Une femme redoutable, cette Dessala.
Le sourire de Léane se volatilisa comme la brume sous le soleil de midi.
Elles m'ont dit avoir remis en blanc.
Il aurait pu t'arriver bien pire, je pense.
Elle te donne de la fourche racine, comme à moi ?
Surprise, Egwene regarda la sœur marron qui maintenait le bouclier.
Les coutumes,
ricana Léane.
Sans bouclier, je pourrais taper sur une mouche sans lui faire de mal. Mais les coutumes exigent qu'une femme incarcérée ici soit placée sous un bouclier. À part ça, elle te laisse libre de tes mouvements ?
Pas vraiment. Deux sœurs rouges m'attendent dans le couloir pour m'escorter jusqu'à ma cellule et me couper de la source pendant mon sommeil.
Léane en soupira de dépit.
Donc je suis enfermée, on te surveille, et nous sommes toutes les deux sous fourche racine.
Léane coula un regard en biais aux deux sœurs marrons. Alors que Félana se consacrait toujours à ses travaux d'écriture, Dalévienne tournait les pages de ses deux livres en marmonnant entre ses dents. Pour aiguiser autant sa dague, le champion devait avoir l'intention de se raser avec. Cela dit, il ne quittait pas l'entrée du regard.
« On s'évade quand ?»
demanda Léane à voix basse.
« Jamais, »
répondit Egwene. En surveillant elle aussi les sœurs du coin de l'œil, elle détailla son plan à Léane. Puis elle lui rapporta tout ce qu'elle avait vu et fait. Décrire ses multiples punitions et son comportement ne fut pas vraiment facile, mais nécessaire pour convaincre son interlocutrice qu'elle tiendrait le coup.
« Je sais bien qu'un assaut est impossible, »
dit Léane.
« Mais j'espérais... »
Le champion ayant bougé, elle s'interrompit. Mais il venait simplement de rengainer sa dague. Les bras croisés, il s'adossa au mur et allongea les jambes, les yeux toujours braqués sur la porte. En un clin d'œil, cet homme pouvait se relever, prêt au combat.
« Par le passé, la race m'a aidé à fuir, »
continua Léane.
« Mais je ne sais pas si elle recommencerait. »
Elle frissonna. Cette fois, c'était sincère. Quand la race les avait aidés à s'évader, Siouan et elle, Léane était apaisée.
« Mais elle a agi davantage pour Mine que pour Siouan ou moi. Tu es sûr que Sylviana ne te brisera pas ? C'est une femme de pierre, tu sais. Équitable à ce qu'on dit, mais assez dure pour casser du fer. Mère, es-tu absolument certaine ?
Absolument, oui.
Dans ce cas, nous serons les deux vers qui rongeront la pomme de l'intérieur. »
Une affirmation, pas une question. Quand l'épuisement lui en laissait la force, Egwene rendait visite à Léane chaque soir. Pour une prisonnière, elle la trouvait remarquablement vive d'esprit et optimiste. Les visiteuses ne cessant d'affluer, Léane profitait de chaque conversation pour placer les remarques insidieuses qu'Egwene lui soufflait. Ses visiteuses ne pouvant pas ordonner qu'on punisse une Aes Sedai, même alors qu'elle était en cellule ouverte, certaines furent assez furieuses pour le regretter ouvertement. Car entendre certaines choses de la bouche d'une sœur les ébranlait plus que lorsqu'elle sortait de celle d'une novice. Enfin, d'une femme qu'elle tenait pour telle. Léane pouvait même polémiquer librement. En tout cas, jusqu'à ce que son interlocutrice s'en aille, indignée. Mais beaucoup restaient, apprit-elle à Egwene. Et dans le lot, certaines étaient d'accord avec elle. Pas sur tous les points, souvent, et avec une grande prudence. Mais il n'en restait pas moins qu'elle partageait certaines de ses opinions. Point presque aussi important, pour Léane en tout cas, plusieurs sœurs vertes lui tinrent un raisonnement très particulier. Puisqu'elle avait été apaisée, cessant pour un temps d'être une Aes Sedai, dès qu'elle en serait redevenue une, Léane aurait le droit de choisir n'importe quel Aja. Cette théorie ne faisait pas l'unanimité, loin de là, mais un peu valait toujours mieux que rien. Dans sa cage, commença à penser Egwene, Léane avait beaucoup plus d'influence qu'elle, pourtant libre de ses mouvements. Enfin, relativement libre. La jeune femme n'en conçut aucune jalousie, au sens strict du terme. La mission à la tour était capitale, et savoir qui la remplissait le mieux n'avait aucune importance. Mais parfois, le chemin du bureau de Sylviana en paraissait plus long et plus pénible. Cela dit, Egwene aussi avait ses succès, plus ou moins. Le premier jour de ses leçons particulières, elle dut se rendre dans un salon où des livres s'entassaient partout, y compris sur le sol. Les rayons des bibliothèques croulaient sous les os, les crânes et les fragments de peaux de bêtes, des oiseaux et des serpents, certains spécimens empaillés enrichissant le décor. Dans un coin, un gros lézard gris, perché sur l'énorme crâne d'un ours, semblait lui aussi empaillé, jusqu'à ce qu'il lui prenne l'envie de bouger les yeux. Originaire du Chiénard, Benae Nalsad, une sœur marron, demanda à Egwene de réaliser une longue série de tissages. Assise dans un fauteuil d'un côté de la cheminée, la formatrice ne quittait pas du regard son élève, installée à son grand inconfort, Sylviana toujours, sur un des autres sièges. Sans l'avoir invitée à s'asseoir, Benae n'y avait pas vu d'objection. Egwene réalisa aisément tous les tissages, jusqu'à ce que la sœur lui demande une démonstration de l'ouverture d'un portail. Se contentant de sourire, la chère Damirline des rebelles croisa les mains sur son giron. Calée contre le dossier de son fauteuil, Benae tira très légèrement sur sa jupe de soie. Les yeux bleus très vifs, ses cheveux noirs grisonnants tenus par un filet d'argent, cette sœur marron, comme beaucoup de ses compagnes d'Aja, avait en permanence des taches d'encre sur les doigts, et même au bout du nez. Sans en avoir offert à Egwen, elle sirotait une infusion.
« Sur le pouvoir, il ne te reste pas grand-chose à apprendre, mon enfant.
Surtout quand on songe à tes fabuleuses découvertes. » D'un hochement de tête, Egwen accepta le compliment. Certaines de ses découvertes étaient vraiment les siennes, et de toute façon, à présent, ça n'avait plus aucune importance.
« Mais ça ne signifie pas qu'il ne te reste rien à apprendre, »
continua Benae.
« En tant que novice, tu as suivi peu de cours avant de... »
Benae étudia de pied en cap Egwen, puis se racla la gorge.
« Et moins de leçons encore quand tu... enfin, après. Si tu en es capable, dis-moi quelle erreur commise par Shane Chunla a provoqué la troisième guerre du mur de Galen, et quelles furent les causes de la grande guerre d'hiver entre le royaume d'Andorre et le Kaerien. Qu'est-ce qui motiva la rébellion de Weikin et comment se termina-t-elle? L'histoire consiste essentiellement à étudier des conflits, le plus important étant de savoir quand et pourquoi ils commencèrent, et quand et comment ils finirent. Beaucoup de boucheries auraient pu être évitées si certaines personnes avaient remarqué les erreurs commises par d'autres. Alors, tes réponses?
Shane n'a commis aucune erreur, dit Egwen. Mais vous avez raison. Il me reste beaucoup à apprendre. Je n'ai jamais entendu parler de ces autres conflits.
Se levant, Egwen alla se servir une tasse d'infusion. À côté du plateau en argent ouvragé, le crâne d'un serpent géant côtoyait un lynx empaillé. Benae plissa le front, mais pas à cause de l'infusion. Ce détail, elle ne sembla même pas le remarquer.
« Comment ça, Shane n'a commis aucune erreur ?»« Enfin, elle a géré la situation aussi mal qu'il était possible. »« Longtemps avant la troisième guerre du mur de Garen, »
dit Egwen en retournant s'asseoir.
« Shane faisait très exactement ce que lui soufflait le hall, et rien de plus. »
Malgré de sérieuses lacunes en histoire, Egwen, grâce au cours de Siouan, n'ignorait rien des fautes et des bévues commises par les chers d'Amerlin du passé. Aborder ce sujet lui fournissait une ouverture dont elle entendait profiter. Comme d'habitude, se rasseoir sans rien trahir lui coûta un gros effort.
« Que veux-tu dire, mon enfant ?»
Au début, Shane entendait diriger la tour d'une main de fer. Jamais de compromis, toute opposition impitoyablement écrasée. Le hall s'est lassé de ce régime, mais sans pouvoir trouver une remplaçante à Shane. Alors, au lieu de la destituer, les représentantes firent bien pire. La laissant en place, elles lui infligèrent une pénitence chaque fois qu'elle tentait de donner un ordre, sur quelque sujet que ce soit.
On eût dit que c'était Egwen, la formatrice. Consciente que c'était dangereux, elle n'en continua pas moins, en luttant pour ne pas se tortiller sur son siège.
Le hall dirigeait la tour en tirant les ficelles de Shane. Mais les représentantes multiplièrent elles aussi les erreurs. Pour l'essentiel, parce que chaque Aja avait ses propres objectifs, et qu'il manquait une dirigeante pour défendre les intérêts de la tour blanche. Le règne de Shane fut semé de guerres dans tous les coins du monde. À force, les sœurs elles-mêmes se lassèrent des diktats du hall. Lors d'une des six mutineries de notre histoire, Shane et le hall furent renversés. La chair d'Amerlin déchue mourut à la tour. Une fin naturelle, à ce qu'on dit. En réalité, 51 ans plus tard, elle fut étouffée dans son lit, en exil, parce qu'un complot visant à lui rendre son titre venait d'être déjoué.
« Des mutineries ?»
répéta Benae, incrédule.
« Six qui plus est, exilée et étouffée ?»
C'est consigné dans les archives secrètes de la 13e section. En fait, je n'aurais pas dû vous le dire, mais...
Egwen but une gorgée d'infusion et fit la grimace. Un goût immonde. Pas étonnant que Benae ait délaissé sa tasse.
Des archives secrètes? Une 13e section? Si ces choses existaient,
mais je serais au courant. Pourquoi n'aurais-tu pas dû m'en parler? Parce que nos lois exigent que l'existence de ces archives, et a fortiori celle de leur contenu, soit seulement connue par la chair d'Amerlin, la gardienne des chroniques et les représentantes. Plus les bibliothécaires qui s'en occupent, bien entendu. Nos lois elles-mêmes appartiennent à la 13e section. Ça non plus, je n'aurais pas dû vous le dire. Mais si vous avez le statut requis un jour, ou si vous posez la question à une initiée encline à répondre, vous découvrirez que j'ai raison. Dans l'histoire de la tour, en 6 occasions, les sœurs sont intervenues pour démettre une chair d'Amerlin trop clivante ou trop incompétente. En somme, elles se sont substituées au hall.
Et voilà. Même avec une pelle, Egwen n'aurait pas pu planter plus profondément sa graine, ou avec un marteau enfoncer plus violemment son clou. Benae dévisagea un long moment son élève, puis elle porta sa tasse à ses lèvres. Dès que l'infusion les toucha, elle la recracha, puis entreprit de sécher le devant de sa robe avec un mouchoir bordé de dentelle.
« La grande guerre d'hiver, »
dit-elle, après avoir posé sa tasse sur le sol, au pied de son siège.
« Commença à la fin de l'an 671. »
Benae ne reparla pas de mutinerie ou d'archives secrètes, mais ce n'était pas nécessaire. Plus d'une fois, pendant la leçon, elle s'interrompit, le regard rivé sur un point lointain derrière Egwen. Un point lointain dont on devinait aisément la nature. Plus tard, ce jour-là, l'Irène d'Oireline, alors qu'elle faisait les 100 pas devant la cheminée de son salon, déclara.
Oui, là, Elaïda a commis une erreur majeure.
À peine plus petite qu'Egwen, la sœur kérienienne faisait penser à un moineau souffrant d'une phobie des chats et convaincue qu'il y en avait une horde dans le voisinage. Bien qu'elle fût une ancienne représentante, le haut de sa robe verte ne comptait que 4 rayures rouges très discrètes.
Sa proclamation, après une tentative d'enlèvement, était juste ce qu'il fallait pour tenir le jeune Altor aussi loin de la tour blanche que possible. Oui, des erreurs, elle en a commis, cette femme.
Et Gwen brûlait d'envie d'en savoir plus sur la tentative d'enlèvement de Rand. Un enlèvement, sans blague? Mais l'Irène se répandit sur les bévues d'Elaïda et ne la laissa pas placer un mot. Tout le temps, elle marcha de long en large en se tordant les mains. Ce cours pouvait-il être qualifié de succès? Et Gwen ne l'aurait pas garanti. En tout cas, ce n'était pas un échec. Et elle avait appris quelque chose. Cela dit, toutes ces tentatives ne se révélèrent pas aussi fructueuses.
« Ce n'est pas un sujet de discussion !»
lâcha Prital Nerbaïdjan, d'un ton calme mais avec des étincelles dans les yeux. Avec les épées qui pendaient au mur et la tapisserie représentant un combat entre des soldats et des trolloques, son salon ressemblait plus à celui d'une sœur jaune qu'au fief d'une verte. D'ailleurs, sa main droite reposait sur le manche du couteau glissé dans sa ceinture d'argent. Plus qu'un couteau, en fait. Une dague à la lame longue de plus d'un pied et au pommeau orné d'une émeraude. Connue pour détester l'enseignement, pourquoi avait-elle accepté de former Egwen? Peut-être à cause du défi que ça représentait.
« Tu es ici pour un cours sur les limites du pouvoir séculier. Un cours de base, adapté à une novice. »
À la torture sur le tabouret que Prita lui avait fourni en guise de siège, Egwen aurait voulu se tortiller, mais elle se concentra sur la douleur et son puissant désir de l'accepter. Après 3 passages dans le bureau de Sylviana, un 4e se profilait, et on était encore à 1 heure du déjeuner.
« J'ai simplement dit ceci. Si Chemerine a pu être privée de son châle pour redevenir une acceptée, c'est parce que le pouvoir d'Elaïda n'a pas de limite. En tout cas, c'est ce qu'elle pense. Et si les sœurs acceptent tout sans broncher, elle aura eu raison. »
Prital serra si fort le manche de son arme que ses phalanges blanchirent.
« Puisque tu crois en savoir plus long que moi, » grinça-t-elle, « tu iras rendre une petite visite à Sylviana après ce cours. »
Un demi-succès, probablement. La fureur de Prital, Egwen l'aurait juré, n'était pas dirigée contre elle.
« J'exige que ton comportement soit parfait, »
dit un autre jour Serancha Colvin. Le meilleur mot pour décrire cette sœur grise? Pincée. Comme sa bouche et ses narines, qui semblaient capter en permanence une odeur pestilentielle. Plissée de désapprobation, ses yeux bleus pâles paraissaient eux aussi pincés. Sinon, elle aurait pu être très jolie.
« Tu as bien compris ?»«
Oui, »
répondit Egwen, depuis son tabouret placé en face du fauteuil moelleux de la sœur. Par une matinée frisquette, des flammes crépitaient dans la cheminée.
« Bois la douleur. Accueille-la. »«
Mauvaise réponse !»
siffla Serancha.
La bonne aurait été de t'incliner en disant « J'ai compris, Serancha Sedai. Quand nous aurons terminé, je ferai la liste de tes errements et tu la porteras à Sylviana. Bon, essayons de nouveau pour voir. Tu as compris, mon enfant ?»«
Oui, »
répondit Egwen sans se lever. Impassibilité ou non, Serancha devint rouge comme une pivoine. Au bout du compte, sa liste eut du mal à tenir sur 4 feuilles écrites serrées. En gros, elle avait passé plus de temps à rédiger son texte qu'à faire court. Pas vraiment un succès cette opération-là. Enfin, il fallait bien mentionner Adelorna Bastine. Frêle et plus petite qu'Egwen, la sœur originaire du Saldaea, réussissait à paraître régalienne en toutes circonstances, et son aura d'autorité aurait pu être intimidante, si Egwen s'était laissé faire.
« J'ai entendu parler de tes fautes, »
dit Adelorna avant de s'emparer d'une brosse en ivoire posée sur un guéridon, près de son fauteuil.
« Si tu essaies de m'embrouiller, je te montrerai une façon originale d'utiliser cet objet. »
Egwen n'y coupa pas. En 3 occasions, elle dut se coucher sur les genoux de la sœur, qui se révéla effectivement une virtuose de la brosse punitive. Du coup, un cours qui devait durer 1 heure s'éternisa pendant plus de 2.
« Je peux partir maintenant ?»
demanda Egwen, en séchant dignement ses larmes avec un mouchoir déjà trempé.
« Aspire la souffrance. Absorbe le feu. Je suis de corvée d'eau pour les sœurs rouges. Je ne voudrais pas arriver en retard. »
Le front plissé, Adelorna étudia la brosse avant de la reposer sur le guéridon qu'Egwen avait renversé 2 fois en battant des jambes. Puis elle dévisagea sa victime, comme si elle essayait de deviner ses pensées.
« J'aimerais que Katsuane soit ici, »
souffla-t-elle.
« Même pour elle, tu serais un sacré défi. »
Egwen se demanda si elle rêvait ou s'il y avait bien du respect dans la voix de la Aes Sedai. En un sens, ce jour fut un tournant décisif. D'abord parce que Sylviana décida qu'Egwen passerait à 2 guérisons par jour.
« On dirait que tu demandes d'être battu, mon enfant. » C'est de la subordination, et je ne te lâcherai pas. La réalité, tu devras la regarder en face. Lors de ta prochaine visite, nous passerons à la badine ou à la ceinture. On verra bien si tu aimes ça. »
Alors qu'elle abaissait le jupon d'Egwen, la maîtresse des novices se pétrifia.
« Je me trompe ou tu souris? Aurais-je dit quelque chose d'amusant ?»«
Non,
J'ai seulement pensé à un truc drôle. Rien d'important.
Rien d'important pour Sylviana, en tout cas. D'un seul coup, Egwene venait de comprendre comment accueillir la douleur. Elle était engagée dans une guerre, pas dans une seule bataille. Chaque fois qu'elle allait dans le bureau de Sylviana pour y être tabassée, ça indiquait qu'elle venait de livrer une bataille en refusant de se rendre. La douleur, dans ce cas, était l'équivalent d'une médaille. Lors de cette séance, elle cria et battit des jambes autant que d'habitude. Mais lorsqu'elle sécha ses joues après l'orage, elle se surprit à fredonner. Accepter une médaille, il n'y avait rien de plus facile. Dès le deuxième jour, l'attitude des novices commença à changer. Travaillant aux écuries, Arena venait souvent voir Nicolas. À dire vrai, ses filles semblaient si proches qu'Egwene se demanda si elles n'étaient pas complices d'oreiller. Toujours à murmurer entre elles ou à sourire d'un air mystérieux, ces deux commères s'étaient répandues en glorieux récits au sujet de la prisonnière. Sans lésiner sur l'exagération. Grâce à elles, Egwene aurait pu passer pour la somme de toutes les sœurs de légende de l'histoire. Et des héroïnes, aussi. Égalant Birgit Arc d'Argent ou même Amarissou, et brandissant l'épée du soleil sur les champs de bataille. Du coup, une moitié des novices l'admirait, tandis que l'autre, furieuse pour une raison inconnue, ne lui mégotait pas son mépris. Suicidairement, certaines filles tentèrent d'imiter son comportement en cours. Mais une avalanche de passages dans le bureau de Sylviana les en découragea vite. Au déjeuner, le troisième jour, plus de 20 novices mangèrent debout, les joues rouges de honte. Nicolas était du lot, tout comme Alvister, une sacrée surprise, ça. Au dîner, ce nombre chuta à 7, et le quatrième jour, seuls Nicolas et la Kerianienne persévérèrent. Après, le phénomène cessa. Et Gwen craignait que certaines filles lui en veuillent, parce qu'elles continuaient à résister alors qu'elles avaient capitulé. Bien au contraire, sa résilience lui gagna de nouvelles partisanes, et le nombre de ses ennemis diminua d'autant. Cela dit, personne ne tenta de devenir son amie. Et elle s'en félicita. En robe blanche ou non, elle restait une Aes Sedai, et il aurait été inconvenant qu'une sœur se rapproche trop d'une novice. La tête enflée, la pauvre aurait risqué de se mettre en danger. En revanche, les filles en blanc commencèrent à lui demander son avis ou à requérir son aide pour mieux retenir leurs leçons. Au début, il y en eut 2 ou 3, mais le nombre grossit chaque jour. Et Gwen se découvrit prête à les soutenir. Le plus souvent, ça consistait simplement à stimuler la confiance d'une adolescente, à convaincre une jeune femme que la patience était d'or, ou à faire la démonstration, au ralenti, d'un tissage particulièrement compliqué. Sans une sœur ou une acceptée pour les superviser, les novices n'avaient pas le droit de canaliser le pouvoir. Plus souvent qu'à leur tour, elles passaient outre, et de toute façon, Egwene était une sœur. Cependant, elle refusa d'aider plus d'une novice à la fois. Si elle formait des groupes, ça finirait par se savoir, et une foule d'innocentes finirait dans le bureau de Sylviana. Pour sa part, Egwene était prête à y aller aussi souvent que nécessaire. Mais elle ne souhaitait ça à personne. Quant aux avis, les novices étant strictement coupés des hommes, il n'y avait pas grand-chose à leur dire. Et tant pis si les tensions entre complices d'oreiller pouvaient être aussi explosives que les passions plus conventionnelles. Un soir, au retour d'une énième séance avec Sylviana, Egwene entendit Nicolas parler avec 2 filles qui ne devaient pas avoir plus de 15 ou 16 ans. Avait-elle été un jour si jeune? Franchement, ça ne lui paraissait pas possible, ou ça remontait à 1 siècle. Solide mourandienne aux yeux bleus malicieux, Mara ouvrait en grand ses oreilles, tout comme Namen, une fine domanie qui gloussait presque en permanence.
« Demandez à mère !»
était en train de dire Nicolas. Quelques novices appelaient Egwene ainsi, désormais, quand elles étaient loin des oreilles indiscrètes, par bonheur. Des têtes de linotte n'est pas des abrutis.
« Elle est toujours prête à donner des conseils. »
En gloussant bêtement, Namen se tordit les mains.
« Je ne voudrais surtout pas la déranger. De plus !»
dit Mara, sa voix toujours aussi mélodieuse.
« Il paraît qu'elle donne toujours les mêmes conseils. »«
Oui, et ils sont très bons. »
intervint Nicolas. Elle brandit un index, puis énuméra.
« Obéis aux Aes Sedai. Obéis aux acceptés. Travaille dur, puis travaille encore plus dur. »
En avançant vers sa cellule, Egwene sourit. Quand elle était la chair d'Amerline officielle, discipliner Nicolas avait été impossible. En redevenant une novice, elle semblait avoir réussi au-delà de ses espérances. Stupéfiant. En plus du reste, elle pouvait faire une chose très importante pour les novices. Les rassurer. Si impossible que ça fût, la configuration intérieure de la tour fluctuait. Sur le chemin de salles qu'elles connaissaient comme leur poche, des femmes s'égaraient. D'autre part, on voyait des inconnus sortir des murs ou les traverser. En règle générale, elles étaient vêtues à l'ancienne mode, voire n'importe comment. Ces bizarreries allaient de la simple toge à la longue tunique portée sur des pantalons bouffants, avec, entre les deux, des extravagances inouïes. Pourquoi une femme aurait-elle mis une robe qui exposait totalement ses seins? Ayant évoqué le sujet avec Xuan dans le monde des rêves, Egwene comprit que c'était des signes avant-coureurs de l'ultime bataille. Une idée très déplaisante, certes, mais comme il n'y avait rien à faire contre. Là encore, le maître mot était « accepté ». Après tout, Rand lui-même n'était-il pas un des héros de Tarmogaidon? Dans la tour, certaines sœurs devaient également savoir de quoi il s'agissait. Distraites par leurs mystérieuses affaires, elles ne prenaient pas le temps de rassurer, ou au moins de réconforter, les novices mortes de peur. Et Gwen, elle, se donnait cette peine.
« Le monde est plein de merveilles »,
dit-elle un jour à Coride, une fille aux cheveux blonds et au teint pâle qui sanglotait sur son lit. À peine plus jeune qu'Egwen, et présente à la tour depuis un an et demi, Coride était encore une enfant.
« Pourquoi s'étonner qu'on en trouve aussi à la Tour Blanche? N'est-ce pas l'endroit idéal, au contraire ?»
Devant ses filles, Egwen ne mentionnait jamais l'ultime bataille. Ça aurait été une curieuse façon de les rassurer.
« Mais la femme que j'ai vue a traversé un mur !»
s'écria Coride. Le visage rouge et gonflé, elle avait les joues brillantes de larmes.
« Un mur ? Après, aucune d'entre nous n'a réussi à trouver la salle de classe. Petra s'est perdue aussi, et elle s'est défoulée sur nous. En principe, elle ne s'énerve jamais, mais elle avait peur. » « D'accord, mais je parie qu'elle n'a pas éclaté en sanglots. »
Et Gwen s'assit au bord du lit et fut ravie de constater que ça ne la faisait pas grimacer. Les matelas des novices n'étaient pas connus pour leur moelleux.
Les morts ne peuvent pas faire de mal aux vivants, Coride. Ils sont même incapables de nous toucher, et je crois qu'ils ne nous voient pas. En outre, il s'agit d'initiés de la tour ou de domestiques. Ici, c'était chez eux, comme pour nous.
Quant aux salles et aux couloirs baladeurs, pense à ma remarque sur les merveilles du monde. Avec cette notion en tête, tu n'auras plus d'angoisse.
Un discours qui n'aurait pas convaincu celle qui le prononçait. Pourtant, Coride se sécha les yeux et jura qu'elle n'aurait plus jamais peur. Hélas, il y avait 102 novices dans son état. Et toutes ne furent pas si faciles à réconforter. La démission des Aes Sedai, sur ce point pourtant vital, augmenta le ressentiment qu'Egwen éprouvait à leur égard. Les journées ne se réduisaient pas à suivre des cours, à cajoler des novices et à encaisser les coups de Sylviana, même si cette dernière activité était sacrément chronophage. Sur le plan du temps libre, la maîtresse des novices ne s'était pas trompée. D'autant qu'une fille en blanc croulait sous les corvées. Très souvent, c'était de pure brimade. Puisque la tour disposait de plus d'un millier de domestiques des deux sexes pour s'acquitter de ses tâches, sans compter les travailleurs extérieurs. Mais l'effort physique aidait à renforcer le caractère, du moins selon la doctrine officielle. Cerise sur le gâteau, enfin, en théorie, ça empêchait les novices de penser aux hommes. Là où les autres croulaient sous les corvées, Equen était déjà à plat ventre sur le sol. En ce qui la concernait, tout le monde s'y mettait. Certaines sœurs parce qu'elles la tenaient pour une fugitive, d'autres, comme Sylviana, parce qu'elles pensaient contribuer ainsi à la mater. Chaque jour, après au moins un repas, Egwen récurait des chaudrons dans une pièce dédiée des grandes cuisines. De temps en temps, la race jetait un coup d'œil par la porte, mais sans desserrer les lèvres. Cela dit, elle ne se servait jamais de sa louche, même quand elle surprenait la novice en train de râler contre son sort au lieu de récurer. La race allait même jusqu'à distribuer des coups aux filles de cuisine et aux aides cuisinières qui tentaient de bizuter Egwen, comme il était de règle avec les novices condamnés à des corvées. Chaque fois, la race rappelait aux petites farceuses qu'elles étaient là pour travailler, les blagues et autres âneries étant réservées à leur temps libre. Cela dit, Egwen remarqua que la maîtresse des cuisines était moins prompte à sévir quand on s'en prenait à une autre novice qu'elle, par exemple en lui versant un gobelet d'eau glacée dans le dos. Jusqu'à un certain point, la prisonnière avait une alliée, mais sa fiabilité restait à démontrer. La corvée d'eau, avec une longue perche sur les épaules, un seau accroché à chaque extrémité, forçait Egwen à traverser quasiment toute la tour, des cuisines jusqu'au quartier des Aes Sedai en passant par celui des acceptés. Tout ça en montée, bien entendu. Elle portait aussi leurs repas aux sœurs, ratissait les allées, arrachait les mauvaises herbes, accomplissait diverses missions, bichonnait les représentantes, balayait et lavait les sols, briquait les parquets en se traînant à genoux. La liste aurait pu être 10 fois plus longue, mais bon. En public, Egwen ne se plaignait jamais de ses corvées. En partie pour qu'on ne la traite pas de paresseuse, mais il n'y avait pas que ça. En un sens, ses corvées, elle les voyait comme une punition, parce qu'elle ne s'était pas préparée comme il fallait avant de transformer en Quendillard la chaîne du port. Et les châtiments, il fallait les accepter avec dignité. Pour autant que c'était possible en briquant un parquet. En outre, aller dans le quartier des acceptés lui donnait l'occasion de découvrir ce qu'on y pensait d'elle. Dans la tour, on comptait 31 acceptés. Ces femmes étant en permanence en train de donner des leçons ou d'en recevoir, on en trouvait rarement plus d'une dizaine dans leur chambre, disposées autour d'un petit jardin. Quand Egwen arrivait, la nouvelle circulait vite, et elle ne se trouvait jamais en manque d'auditoire. Au début, cependant, pas mal d'acceptés tentèrent de la noyer sous un torrent d'ordre. En particulier Maïr, une ressortissante de la Raphaël un rien boulotte, et Asseil, une blonde aux yeux bleus originaire du Tarabone. Encore novice lors de l'arrivée à la tour d'Egwen, elle n'avait pas apprécié sa rapide promotion au statut d'accepté. Avec elle, dès la deuxième phrase, c'était « Va donc chercher ceci » ou « Porte cela là-bas ». Pour toutes ces femmes, elle était la novice qui avait semé le trouble, celle qui se prenait pour la chère Damirline. Alors qu'elle portait de l'eau jusqu'à en gémir de douleur et sans se plaindre, Egwene refusait d'obéir à ces ordres-là. Une insubordination qui se traduisait par des visites supplémentaires à Sylviana, bien entendu. Au fil des jours, alors que les séances avec la maîtresse des novices n'avaient pas le moindre effet, les acceptées cessèrent de l'accabler ainsi. En réalité, toutes autant qu'elles étaient, y compris Asail et Maïr, elles n'avaient pas voulu être dures avec la novice, cherchant simplement à se comporter selon ce qu'elles estimaient être la bonne façon. Mais si on creusait un peu, on découvrait qu'elles ne savaient que faire avec l'étrange prisonnière. Parmi les acceptées, certaines réagissaient mal aux morts qui marchaient et aux sales et couloirs vagabonds. Dès qu'elle envoyait une avec les yeux rouges ou le teint blafard, Egwene lui servait le même discours réconfortant qu'aux novices. Pas en s'adressant directement à elle, une audace qui aurait pu la brusquer, mais en pensant tout haut, comme si elle parlait seule. Sa tirade fonctionna aussi bien qu'avec les novices. Souvent, quand elle se lançait, sa cible la foudroyait du regard, comme si elle allait lui ordonner de se taire, mais ça n'allait jamais jusque-là. Et en s'éloignant, elle laissait toujours derrière elle une femme plongée dans une profonde réflexion. En somme, si les acceptés continuaient à affluer dans la galerie circulaire lorsqu'elle s'y montrait, elle la regardait désormais en silence, se demandant qui elle était vraiment. Au bout du compte, Egwene leur ferait découvrir, et aux sœurs aussi. Quand elle s'occupait des représentantes et des sœurs, une fille en blanc sagement debout dans un coin faisait partie du décor, même quand elle était célèbre. Bien sûr, dès qu'elle remarquait sa présence, les Aes Sedai changeaient de sujet de conversation, mais l'un dans l'autre, Egwene entendit pas mal de choses intéressantes. Pour l'essentiel, sur des plans ourdis par un Aja pour se venger d'un autre, qu'il y ait ou non une véritable offense à laver. Bizarrement, presque toutes les sœurs se méfiaient plus des autres Aja présents à la tour que des renégates qui l'assiégeaient. Sur ce point, les représentantes ne se montraient pas plus futées. Egwene aurait volontiers giflé ces idiotes. D'accord, ça augurait bien des relations à venir, après la réunification de la tour, mais quand même. À l'occasion, la prisonnière entendit des choses plus intéressantes. Par exemple, sur le fiasco d'une expédition lancée contre la tour noire. Certaines sœurs parlaient d'une fausse nouvelle, mais on voyait bien qu'elles tentaient de s'illusionner. Après une grande bataille, beaucoup d'Aes Sedai, capturés, avaient dû jurer fidélité à Rand. Egwene avait eu vent de cette affaire, et ne s'en réjouissait pas. Même chose sur les rumeurs au sujet de sœurs liées à des achamans. Être Taveren, voir le dragon réincarné en personne, n'excusait pas tout. Dans l'histoire, aucune Aes Sedai n'avait prêté serment à un homme. Les sœurs et les représentantes jacassaient en permanence sur les coupables. Alors que Rand et les achamans figuraient sur les deux plus hautes marches du podium, la troisième revenait immanquablement à Elaïda do Avrini Aroyan. Un autre grand sujet. Comment mettre la main sur Rand avant Tarmon Gaidon? Bien qu'incapables de réconforter les novices et les accepter, les sœurs savaient ce que voulaient dire les signes. Pour capturer Rand, il ne leur restait pas beaucoup de temps. À l'occasion, Egwene se risquait à intervenir. Par exemple, en évoquant le drame de Shemerin, dépouillée de son châle en violation de toutes les coutumes. Ou en rappelant que le décret d'Elaïda au sujet de Rand était la meilleure façon de l'inciter à garder ses distances avec la tour. Parfois, Egwene exprimait sa sympathie pour les sœurs capturées par les achamans ou faites prisonnières au puits de Doumaï, toujours en lâchant comme par hasard le nom d'Elaïda. D'autres fois, elle déplorait que les rues de Tarvalon, naguère immaculées, soient devenues une enfilade de décharges d'ordures. Dans ce cas, inutile de mentionner Elaïda, car tout le monde savait qu'elle était responsable de la ville. Comme de juste, ses commentaires perfides valurent à Egwene des visites supplémentaires à Sylviana et une petite montagne de corvées. Mais ça se révéla très loin d'être systématique. Fine mouche, elle grava dans sa mémoire les visages des sœurs qui la morigénaient à peine. Ou mieux encore, il la laissait parler sans intervenir. Avant de se reprendre, quelques-unes allaient jusqu'à approuver du chef ses propos. En outre, certaines corvées permettaient de faire des rencontres intéressantes. Le matin du deuxième jour, Egwene dut utiliser un râteau à long manche pour repêcher des détritus dans les mares du jardin aquatique. Lors d'un orage, la veille, le vent avait déposé des feuilles et de l'herbe au milieu des nénuphars et des iris en boutons. Egwene retrouva même un oiseau mort, qu'elle inhuma discrètement dans un parterre de fleurs. Sur un des ponts, penchée au garde-fou comme si elle regardait passer les poissons multicolores, deux sœurs rouges l'observaient du coin de l'œil. Jaillissant d'un buisson, une demi-douzaine de corbeaux prirent leur envol et filèrent en silence vers le nord. Des corbeaux? Les jardins de la tour, en principe, étaient protégés contre les corbeaux et les corneilles. Curieusement, les sœurs rouges semblaient ne même pas avoir remarqué les oiseaux. Assises sur les talons au bord d'une mare, Egwene se lavait les mains après les funérailles sommaires du pauvre moineau. Levant la tête, elle vit Calviarine approcher, son châle à franges blanches serré contre le torse, comme si la matinée n'avait pas été claire et clémente. la troisième fois qu'Egwen voyait la gardienne déchue. Et comme les deux premières, elle était seule. Pourtant, les sœurs blanches, par les temps qui couraient, se déplaçaient le plus souvent en groupe. Fallait-il y voir un indice? Oui, mais de quoi? Alviarine était-elle un paria pour son propre aja? Non, la tour ne pouvait pas être tombée si bas. Un œil sur les sœurs rouges, Alviarine approcha d'Egwen, faisant crisser les graviers du sentier.
« Tu es tombée de haut, »
dit-elle, quand elle fut assez près pour pouvoir chuchoter.
« Ça ne doit pas être facile. »
Egwen se releva, s'essuya les mains sur le devant de sa robe et ramassa son outil.
« En matière de chute, je ne suis pas seule. »
Avant l'aube, alors qu'elle sortait du bureau de Sylviana, Egwen avait vu Alviarine attendre dans le couloir. Tous les matins, c'était un rituel, et les novices en faisaient des gorges chaudes.
« Ma mère me disait toujours de ne pas pleurer sur le lait renversé. Dans ces circonstances, le conseil paraît judicieux. »
Alviarine rosit très légèrement.
« Pourtant, on dirait que tu pleures beaucoup. Presque en permanence, selon certaines sources. Si tu pouvais t'en empêcher, tu ne t'en priverais pas. »
Et Gwen repêcha une nouvelle feuille de chêne et la fit tomber dans le seau de bois où elle les collectait.
« Ta loyauté envers Elaïda est chancelante, n'est-ce pas ? »
osa-t-elle lancer.
« Pourquoi dis-tu ça ? »
fit Alviarine, soupçonneuse. Après un coup d'œil sur les sœurs rouges, qui faisaient mine d'être fascinées par les poissons, l'ancienne gardienne approcha encore, invitant à des messes basses. Et Gwen s'attaqua à des herbes entremêlées que le vent avait dû charrier depuis les plaines qui bordaient le fleuve. Devait-elle mentionner la lettre qu'Alviarine avait envoyée à Rand, lui promettant plus ou moins que la tour blanche serait à ses pieds ? Non, cette information pouvait être utile, mais à condition de ne s'en servir qu'une fois, et là, c'était trop tôt.
« Elaïda t'a dépouillé de ton étole, puis condamné à une dure pénitence. » En général, ça n'incite pas à la loyauté.
Si les traits d'Alviarine restèrent de marbre, le nœud de ses épaules sembla se défaire un peu. Chez une Aes Sedai, c'était une réaction extrême. Pour se contrôler si mal, la sœur blanche devait subir une énorme pression. Après un nouveau coup d'œil aux sœurs rouges, elle souffla.
« Pense à ta situation. Si tu veux une échappatoire, tu pourrais bien en trouver une. »« Je suis très satisfaite de ma situation, » répondit Egwen.
Alviarine fronça les sourcils, n'en croyant pas un mot. Après un ultime coup d'œil aux sœurs rouges, l'une ayant cessé de contempler les poissons, elle s'éloigna en glissant plus qu'elle marchait. Chez n'importe qui d'autre, on aurait parlé d'un sauve qui peut. Les trois jours qui suivirent, la gardienne déchue se remontra, tandis qu'Egwen s'acquittait de l'une ou l'autre corvée. Sans jamais proposer d'aider la prisonnière à s'évader, elle évoqua chaque fois cette possibilité à mots couverts, et ne cacha pas sa frustration quand sa proie refusa de mordre à son hameçon. Car il s'agissait bien de ça, à coup sûr. Egwen se méfiait de cette femme. À cause de la lettre, qui était sans doute un piège visant à faire tomber Rand entre les griffes d'Elaïda ? Sans doute. Mais il y avait aussi cette façon d'attendre que la captive fasse le premier pas. En implorant de l'aide, peut-être. L'idéal pour qu'Alviarine pose ses conditions. Quoi qu'il en soit, Egwen ne comptait pas s'enfuir, sauf si elle n'avait pas le choix. Du coup, elle répétait inlassablement « Je suis très satisfaite de ma situation. » En entendant ces mots, Alviarine commença à grincer des dents. Le quatrième jour, alors qu'Egwen, à genoux, lavait les dalles bleues et blanches d'un couloir, elle vit passer à côté d'elle les bottes de trois hommes et les fines chaussures d'une Aes Sedai. Après quelques pas supplémentaires, le quatuor s'immobilisa.
« Ce doit être elle !»
dit un des hommes avec un lourd accent ilianien.
« Quelqu'un me l'avait montré. Je crois que je vais lui parler. »«
Ce n'est qu'une novice parmi d'autres, Matin Stepaneos !»
lâcha la sœur.
« Ne voulais-tu pas marcher un peu dans les jardins ?»
Plongeant sa brosse dans l'eau savonneuse, Egwen s'attaqua à une nouvelle rangée de dalles.
« Que la fortune me patafiole, Cariandre. Nous sommes à la Tour Blanche, c'est vrai, mais je reste le roi légitime de Liliane. Si je veux lui parler, avec toi en guise de chaperon pour que la morale soit sauve, c'est tout à fait mon droit. On raconte qu'elle a grandi dans le même village que Randaltor. »
Une paire de bottes, cirée jusqu'à en être éblouissante, approcha de la prisonnière. Elle décida enfin de se redresser, sa brosse dégoulinante au poing. D'un revers de l'autre main, elle écarta les mèches qui tombaient sur ses yeux. Alors que ses reins la torturaient, elle s'interdit de les masser, même si elle en mourait d'envie. Costaud, presque chauve et le visage parcheminé, Matin Stepaneos arborait une barbe blanche taillée avec soin. Dans ses yeux, Egwen lut une grande colère. Sans nul doute, une cuirasse lui serait mieux allée que sa veste de soie verte, des abeilles d'or décorant les manches et les revers.
« Une novice parmi d'autres !»
répéta-t-il.
« Tu te trompes grandement, Cariandre !»
Les lèvres pincées, la sœur rouge Boulotte s'écarta des deux serviteurs. La flamme de Tarvalon brodait sur leur torse et rejoignit le souverain. Avant de se river sur lui, son regard glissa dédaigneusement sur Egwen.
« Cette novice, la plus punie de toutes, doit récurer un sol. Viens, seigneur, ce matin, les jardins sont en beauté.
Peut-être. Mais parler à quelqu'un d'autre qu'une sœur me fera du bien. D'autant plus que j'ai exclusivement droit à l'aja rouge. Au fait, bravo d'avoir réussi à me couper des autres. En plus, les serviteurs qu'on m'a affectés pourraient être sourds et muets. Quant aux gardes de la tour, je parie qu'ils ont reçu l'ordre de se taire en ma présence.
Le roi se tut, car deux autres sœurs rouges approchaient. Plutôt enveloppée, les yeux bleus, Nessita, plus teigneuse qu'un chien enragé, salua poliment Cariandre. Sa collègue, Barazine, tendit à Egwene le gobelet désormais familier. L'aja rouge semblait être chargée de la prisonnière. En tout cas, ses geôlières en faisaient toute partie. Pointilleuses, ces femmes laissaient rarement passer de plus d'une minute l'heure de la fourche racine. Fataliste, Egwene vida le gobelet et le rendit à Barazine. Nessita parut déçue qu'elle ne tente pas de refuser, mais à quoi bon essayer? Elle s'y était risquée une fois, et la sœur rouge l'avait forcée à boire en lui enfonçant dans la gorge un entonnoir qu'elle cachait dans sa bourse. Devant Matine Stepaneos, se donner en spectacle ainsi aurait été humiliant. Alors que le roi observait la scène avec intérêt, Cariandre le tira par la manche, mais il ne se laissa pas entraîner.
« Quand tu as soif, des sœurs t'apportent à boire »
demanda-t-il à Egwene, alors que les deux Aes Sedai s'éclipsaient.
« Une infusion censée améliorer mon humeur, oui. Matine Stepaneos, tu as l'air très en forme. Pour un homme enlevé par Elaïda, je veux dire. »
Cette histoire-là aussi était un grand sujet de conversation entre les novices. Cariandre voulut ouvrir la bouche, mais le roi lui brûla la politesse.
« Elaïda m'a sauvé. Sinon, Altor m'aurait assassiné. »
Cariandre approuva du chef.
« Pourquoi avoir peur de lui ?»
s'étonna Egwene.
« À Gemlin, il a tué Morgaz. Et Colavere, à Kyrienne. Pour ce faire, à ce qu'on dit, il a dévasté la moitié du Palais du Soleil. J'ai aussi entendu parler de hauts seigneurs empoisonnés ou poignardés à Kyrienne. Qui sait combien d'autres dirigeants il a éliminés, faisant disparaître leurs corps ?»
Cariandre en sourit d'aise. Quant à Matine, il faisait penser à un gamin qui récite sa leçon. La sœur rouge ne comprenait-elle rien aux hommes? Sans nul doute, le roi s'en était aperçu. Les dents serrées, il ferma brièvement les poings.
« Colavere s'est pendu, »
dit Egwene d'un ton délibérément très conciliant.
« Le palais du soleil fut endommagé plus tard, à cause de tueurs qui s'en sont pris aux dragons réincarnés. Des rejetés, peut-être. Selon Elaine Trakand, sa mère a été victime de ravines. Rand soutient la fille héritière dans sa quête du trône du lion et de celui du soleil. Enfin, il n'a exécuté aucun rebelle kyrienien ou théarien. Au contraire, il a nommé l'un d'eux régent de Théar.
« Je crois que cette conversation... »
commença Cariandre en tirant sur son châle. Egwene ne tint pas compte de l'interruption.
« N'importe quelle sœur aurait pu te dire tout ça, Matine Stepaneos. À condition de le vouloir, et d'en être informée en se parlant entre elles. Demande-toi pourquoi tu es entourée uniquement de sœurs rouges. As-tu vu des Aes Sedai d'âge différent s'adresser la parole? Tu as été enlevée et conduite de force à bord d'un navire en train de sombrer.
« Maintenant, ça suffit !»
s'écria Cariandre.
« Quand tu auras briqué ce sol... « File chez la maîtresse des novices, et dis-lui de te punir pour cause de paresse, et d'insolence envers une Aes Sedai !»
Sans broncher, Egwene soutint le regard furibard de la sœur.
« J'ai peu de battements entre cette corvée et ma leçon avec Kiyoshi. Puis-je aller voir Sylviana après le cours ?»
Cariandre parut déstabilisé par le calme de la prisonnière.
« C'est ton problème, pas le mien »
grogna-t-elle.
« Suis-moi, Matine Stepaneos. Tu as déjà trop aidé cette insolente à tirer au flanc. »
Quand elle sortit du bureau de Sylviana, Egwene comprit qu'elle n'aurait pas le temps de se changer et de se donner un coup de brosse. Sinon, elle serait en retard pour son cours, sauf si elle courait, et elle refusait de s'abaisser à ça. Même sans se changer, elle arriva en retard. Un problème, parce que Kiyoshi était très à cheval sur la ponctualité et la tenue. Implacable, la mince sœur grise la renvoya dans le maudit bureau, où Sylviana s'en donna à cœur joie. En sus de la philosophie à Yale, une autre chose aida Egwene à traverser cette épreuve. Le souvenir du regard pensif de Matine Stepaneos, tandis que Cariandre l'entraînait, et les deux occasions où il s'était retourné pour la regarder. Une autre graine plantée, encore quelques-unes, et de belles pousses fissureraient peut-être le sol, sous le piédestal d'Elaïda. À force, elle finirait par en tomber. Très tôt, lors de son 7e jour de captivité, alors qu'elle portait de l'eau une nouvelle fois, pour l'âge à blanc ce coup-ci, Egwene s'immobilisa brusquement, le souffle coupé comme si quelqu'un l'avait frappé au ventre. Dans le couloir en spirale, deux femmes au châle à frange grise approchaient, un duo de champions dans leur sillage. Egwene reconnut Melaveir Someinelin, une robuste kyrienienne aux cheveux noirs mêlés de blanc. L'autre Aes Sedai, aux yeux bleus et aux cheveux blonds foncés, c'était tout simplement Béonine.
« Ainsi c'est toi qui m'as trahi !»
s'écria Egwene. Aussitôt, une pensée lui traversa l'esprit. Comment Béonine avait-elle pu la trahir après lui avoir juré fidélité ?«
Tu es de l'âge à noir, c'est ça ?»
Mais la veille se redressa de toute sa hauteur, ce qui n'alla pas très loin, puisqu'elle était plus petite qu'Egwene. Les poings plaqués sur ses larges hanches, elle ouvrit la bouche pour déverser un torrent d'imprécations. Egwene avait eu un cours particulier avec cette sœur. Assez agréable en temps normal, en colère, elle pouvait effrayer n'importe qui. Béonin posa une main sur le bras potelé de sa compagne.
« Laisse-moi lui parler seul à seul, je t'en prie. »«
J'espère que tu ne mâcheras pas tes mots. Comment peut-on oser lancer une accusation pareille, voire évoquer une telle abomination ?»
Révulsé, Mélaveille recula dans le couloir. Encore plus en chair qu'elle, son champion la suivit, ses mouvements fluides et félins malgré son embonpoint. Béonin fit un geste discret à son champion, un type très mince au visage barré par une balafre, qui alla rejoindre les deux autres.
« Je n'ai trahi personne, Egwene. » Mais je ne t'aurais jamais prêté allégeance sans l'attitude du Hall, qui m'aurait fait fouetter, s'il avait découvert les secrets que tu gardes jalousement. Fouetter, oui, et sans doute plus d'une fois. Une raison suffisante pour prêter serment, non? Ai-je jamais fait mine de t'apprécier? Pourtant, jusqu'à ta capture, je te suis resté fidèle, mais tu n'es plus la chair d'Amyrlin. Prisonnière, sans espoir d'être secourue, tu vas jusqu'à refuser qu'on essaie. Désormais, tu n'es plus qu'une novice, et mon serment n'a plus de valeur. Cette idée de rébellion était du délire. Aujourd'hui, c'est terminé. La tour sera bientôt réunifiée et je m'en réjouis d'avance.
Egwene posa la perche qui pesait sur ses épaules et croisa les bras. Depuis sa capture, elle s'efforçait de rester calme, sauf pendant les châtiments corporels. Mais cette rencontre aurait mis à mal l'équanimité d'une pierre.
De très longues explications, Béonin. Avec l'espoir de te convaincre toi-même, tu n'y arriveras pas, ma fille. Si la rébellion est terminée, où sont les légions de sœurs qui se prosternent devant Elaïda, prêtes à accepter ses sentences? Par la lumière. Qu'as-tu trahi d'autre? Tout ce qui pouvait l'être?
C'était plus que probable. En Tel Aranriod, Egwene avait plus d'une fois fouiné dans le bureau de Laïda. Si la boîte où l'usurpatrice gardait son courrier était toujours vide, ça ne devait rien au hasard. Béonin s'empourpra de rage.
Je n'ai trahi personne et...
Sa phrase se terminant sur un grognement étranglé, Béonin porta une main à sa gorge, comme si c'était elle qui refusait de laisser passer un mensonge. Une preuve qu'elle n'appartenait pas à l'âge noir. Et la confirmation d'un point encore plus important.
Tu as vendu nos espionnes. Sont-elles toutes emprisonnées au sous-sol?
Béonin jeta un coup d'œil à Mélaveyre, qui conversait avec son champion. Aussi large que sa protégée, il était quand même un peu plus grand. Terveil, le champion de Béonin, la regardait sans dissimuler son inquiétude. De si loin, aucun des trois n'avait pu entendre un mot. Pourtant, Béonin baissa encore le ton.
Elaïda les fait surveiller, mais les Ajas, selon moi, gardent pour eux tout ce qu'ils voient. Très peu de sœurs disent à la chair d'Amyrlin autre chose que le strict minimum. Ce que j'ai fait, c'était nécessaire, comprends-le. Comment aurais-je pu revenir à la tour et ne pas dénoncer ces espionnes? Au bout du compte, ça se serait retourné contre moi. Dans ce cas, il faut que tu avertisses ces femmes.
Egwene ne parvint pas à dissimuler son mépris. Non contente de couper les cheveux en quatre, Béonin utilisait une hache. Après avoir pris le premier prétexte venu pour se dégager de son serment, elle s'était empressée de dénoncer des femmes qu'elle avait contribué à choisir. Par le fichu sang et les fichus cendres. Jouant distraitement avec son châle, Béonin se tut un long moment, puis elle coupa le souffle à Egwene en lâchant.
« J'ai prévenu Meidani et Jennet,
les deux sœurs grises du groupe d'espionnes.
Pour ces deux femmes, j'ai fait tout ce que je pouvais. Les autres devront surnager seules ou se noyer. Des sœurs ont été attaquées pour s'être trop approchées du quartier d'un autre aja. Moi, je ne tiens pas à retourner dans ma chambre vêtue de mon seul châle et couverte de marques de fouet, juste par goût de la provocation. Considère ta punition sous un autre angle. »
Coupa Egwene.
« Celui de la rédemption, par exemple. »
Lumière. Des sœurs attaquées? Décidément, les choses étaient pires qu'Egwene l'aurait cru. Mais au fond, ça ferait un terreau idéal pour ses graines. Béonin jeta un nouveau coup d'œil dans le couloir. Croyant qu'elle l'appelait, Terveil fit mine d'avancer. Mais elle secoua la tête. Cela dit, intérieurement, elle devait bouillir.
« Tu sais que je pourrais t'envoyer chez la maîtresse des novices ?»
siffla-t-elle à l'intention d'Egwene.
« À ce qu'on raconte, tu y passes déjà le plus clair de ton temps, à couiner comme une truie. D'autres séances te défriseraient, pas vrai ?»
Egwene sourit à la traîtresse. Moins de 2 heures plus tôt, elle avait réussi à sourire à l'instant même où Sylviana cessait de cogner. Là, c'est moins facile.
Qui peut dire à propos de quoi je couinerai? De serment, peut-être?
Béonin devint blanche comme un linge. Gagnée. Elle ne voulait pas que cette affaire s'ébruite.
Tu t'es convaincu que je ne suis plus la chair d'Amyrlin? Eh bien, il est temps de te persuader du contraire. Quoi qu'il t'en coûte, avertis les autres espionnes et dis-leur de rester loin de moi jusqu'à nouvel ordre. On les surveille déjà assez comme ça. Mais à partir de maintenant, tu devras me voir au moins une fois par jour, pour savoir si j'ai de nouvelles consignes les concernant, comme aujourd'hui.
Très vite, Egwene donna à Béonin la liste des sujets à lancer dans les conversations. L'injustice frappant chez Mérine, et la complicité d'Elaïda dans les désastres de la Tour Noire et des puits de Doumaï. Bref, toutes les graines qu'elle avait commencé à planter. Il était temps d'intensifier les semailles.
« Je ne peux pas parler pour les autres Aja, »
dit Béonin, quand Egwene en eut fini.
« Mais dans le gris, les sœurs évoquent souvent ces affaires.
Ces derniers temps, les espionnes de tout poil sont très actives. Les secrets de Laïda sortent au grand jour, qu'elle aime ça ou non. Oui, en y réfléchissant, ce doit être pareil dans tous les ajats. Il est donc inutile que je avertisse ces femmes et transmets-leur mes consignes.
Coupa Egwene. Elle remit la perche sur ses épaules, cherchant la position la plus confortable. Si elle tardait trop, deux ou trois sœurs blanches n'hésiteraient pas à la frapper avant de l'envoyer chez Sylviana. Accepter la douleur, voire l'accueillir, ne signifiait pas qu'on la cherchait avec une lanterne.
Et souviens-toi, c'est une punition que je t'inflige.
Je t'obéirai,
lâcha Béonine avec toute la réticence du monde. Ses yeux devinrent très durs, mais ça ne visait pas Egwene.
Assister à la chute d'Elaïda ne me briserait pas le cœur,
dit-elle d'un ton hargneux, puis elle partit rejoindre Mélaveyre. Cette rencontre ahurissante, transformée en victoire inattendue, plongea Egwene dans une sorte d'euphorie. Et tant pis si Ferran décida finalement qu'elle avait trop tardé. Plus que replète, cette sœur blanche avait des bras dignes de ceux de Sylviana. Ce soir-là, après le dîner, Egwene se traîna jusqu'aux cellules ouvertes. À part quelques leçons et des heures à gémir sous les coups de Sylviana, elle avait passé sa journée à apporter de l'eau. Le dos en compote et les jambes en feu, elle titubait de fatigue. En revanche, depuis sa capture, elle ne souffrait plus de migraines, et elle ne faisait plus les cauchemars qui la laissaient terrifiée, même si elle ne se souvenait de rien. Néanmoins, elle redoutait un mal de tête cette nuit. Du coup, il lui serait difficile de distinguer ses vrais songes des faux. Dommage, parce qu'elle en avait fait de très agréables ces derniers temps. Au sujet de Rand, de Matt, de Perrine, et même de Gawain. Mais avec lui, les rêves étaient toujours délicieux. Trois sœurs blanches qu'elle connaissait un peu surveillaient Léane. Mince comme une liane, ses cheveux clairs noués en couronne sur sa nuque, Nagora était assise bien droit pour dissimuler son physique frêle. Très jolie mais souvent aussi détachée de la réalité qu'une sœur marron, Norine semblait un peu plus lucide que d'habitude. Grande et plutôt grasse, les cheveux gris, Miyassi ne supportait pas les bêtises. Hélas, elle en voyait partout. Enveloppée par l'aura du Saïdar, Nagora maintenait le bouclier qui coupait Léane de la source. Ça n'empêchait pas les trois femmes de se chicaner sur un point de logique auquel Egwene ne comprit rien, car elle arrivait trop tard dans le débat. Deux positions différentes s'affrontaient. Trois, peut-être. Bien entendu, on ne criait pas, on ne montrait pas le poing et on gardait un visage de marbre. Mais ça n'était pas pour autant une polémique amicale. Des femmes normales auraient braillé de rage, voire échangé des coups. Intensément concentrées, les trois sœurs ne remarquèrent pas l'arrivée d'Egwene. En les lorgnant du coin de l'œil, la visiteuse approcha de la cage ajourée et s'y accrocha pour ne pas s'écrouler. Comment pouvait-on être fatigué à ce point ?
« Aujourd'hui, j'ai vu Béonine, »
annonça-t-elle.
« À l'en croire, son serment vis-à-vis de moi ne vaut plus rien parce que je ne suis plus la chair d'Amerline. »
Léane lâcha un petit cri, se leva et approcha des barreaux au point de les toucher avec le nez.
« Elle nous a trahis !» « La fragilité inhérente à toute structure dissimulée est une donnée de base, »
dit Nagora, glaciale même quand elle philosophait.
« De base ?»
Bien, les sœurs étaient toujours dans leur bulle.
« Elle dit que non !»
souffla Egwene.
« Et je la crois. En revanche, elle a dénoncé nos espionnes. Pour le moment, Elaïda se contente de les faire surveiller, mais j'ai ordonné à Béonine de les avertir. Elle a dit qu'elle le ferait. À l'en croire, elle a déjà prévenu Meidani et Janet. Mais pour quelle raison agir ainsi avec des gens qu'on a vendus ? Enfin, elle a parlé avec délectation de l'éventuelle chute d'Elaïda. Mais pourquoi s'être précipitée dans ses jupes si elle désire toujours la renverser ? En même temps, elle reconnaît être la seule à avoir renié notre cause. Je n'y comprends rien. Et je suis trop fatiguée pour me creuser la cervelle. »
Egwene bâilla sans décrocher la mâchoire.
« Les structures dissimulées sont postulées par quatre des cinq axiomes du sixième ordre de rationalité, »
objecta Miyassi à l'argument de Nagora.
« C'est une évidence !»«
Le sixième ordre de rationalité, »
intervint Norine,
« est une aberration, rejetée par tout esprit normalement constitué. Les structures dissimulées, en revanche, sont indispensables pour comprendre ce qui se passe chaque jour ici. La réalité s'altère, changeant d'heure en heure. »
Léane jeta un coup d'œil aux sœurs blanches.
Certaines des nôtres pensent depuis toujours qu'Elaïda a infiltré des espionnes dans nos rangs. Si Béonine en faisait partie, t'avoir juré fidélité l'a peut-être entravée, jusqu'à ce qu'elle se soit convaincue que tu n'étais plus la chair d'Amerline. Mais si elle n'a pas été reçue ici comme elle l'espérait, elle a peut-être changé une nouvelle fois d'avis. Tu sais combien elle est ambitieuse, quand elle ne reçoit pas ce qu'elle tient pour son dû.
Léane écarta les bras.
Béonine exige toujours son dû, souvent avec un petit bonus.
La logique est toujours applicable au monde réel,
affirma Miyassi.
Mais seule une novice pourrait penser que le monde réel se soumet à la logique. Ce qui fonde tout, ce sont les idéaux, pas les contingences de l'univers.
Avec un regard noir, Nagora serra les dents. On eût dit que sa collègue venait de lui arracher les mots de la bouche. Les joues vaguement roses, Norine se leva et approcha d'Egwene. Les deux autres la suivant du regard, elle tira nerveusement sur son châle, comme si elle sentait quelque chose peser sur son dos.
« Mon enfant, tu as l'air épuisé. Va donc te coucher. »
Egwene ne demandait rien de mieux, mais il lui restait une question à poser. Pour ça, elle allait devoir être prudente et rusée. Les trois sœurs blanches l'observaient à présent.
Léane, les sœurs qui viennent te voir posent-elles toutes la même question ?
Au lit !
Répéta Norine. Elle tapa dans ses mains, comme si ça pouvait faire obéir une chair d'Amerline.
Oui,
répondit Léane.
Je vois ce que tu veux dire. Une certaine dose de confiance est peut-être possible. Une faible dose, oui.
Norine plaqua les poings sur les hanches. Désormais, elle n'était plus distraite, et ce n'était pas une bonne nouvelle.
Puisque tu refuses d'aller au lit, que dirais-tu de passer voir Sylviana pour lui apprendre que tu as encore désobéi à une sœur ?
D'accord, d'accord.
Marmonna Egwene, avant de se tourner pour partir. Elle tenait la réponse. Béonine n'avait pas livré le tissage permettant de voyager, d'où l'insistance des sœurs auprès de Léane. Donc, elle n'avait rien vendu d'autre. Du coup, on devait pouvoir se fier à elle. Un peu, en tout cas. Nagora et Miyassi approchaient pour soutenir leurs collègues. Or, Egwene refusait qu'on la traîne jusqu'au bureau mille fois au nid. Avec ses bras encore plus puissants que ceux de Ferran, Miyassi en était bien capable. Le neuvième matin du jour d'Egwene à la Tour Blanche, Doessine en personne vint la guérir. Dehors, il pleuvait à verse. Avec un regard noir pour Doessine, les deux sœurs rouges qui avaient veillé sur la prisonnière lui donnèrent sa ration de fourche racine et filèrent à toutes jambes. Quand la porte se fut refermée sur elle, la représentante jaune en ricana de mépris. Pour la guérison, elle pratiquait toujours l'ancienne méthode, qui gelait Egwene jusqu'aux os et la laissait avec une faim dévorante, et un fessier tout neuf. L'usage exclusif de l'ancienne méthode, à la tour, prouvait que Béonine avait préservé certains secrets. Mais comment s'y était-elle prise ? Selon elle, beaucoup de sœurs ne croyaient pas aux nouveaux tissages et ne cherchaient pas à les apprendre.
« Tu n'as pas la fichue intention de capituler, petite ?»
s'inquiéta Doessine, alors que sa patiente retirait sa robe. Le vocabulaire de Doessine n'allait pas vraiment avec son élégance de tous les instants. Aujourd'hui, elle resplendissait dans une robe bleue brodée de fils d'or. Dans ses cheveux et à ses oreilles, des saphirs brillaient de tout leur feu.
« La chair de Merlin s'est-elle jamais rendue ?»
répliqua Egwene, en se tortillant pour s'attaquer à une rangée de boutons dans son dos. Doessine ricana de nouveau, mais sans mépris cette fois.
« Une profession de foi courageuse, mon enfant. Mais je parie, hélas, que Sylviana ne tardera pas à te briser. »
Sur ces propos pessimistes, la sœur se retira, sans avoir tensé son élève parce qu'elle s'était parée du titre de chair d'Amerlin. Ayant un rendez-vous avec Sylviana avant le petit déjeuner, comme chaque matin, hélas, Egwene mit son point d'honneur à ne pas réaliser la prédiction de Doessine. Dès que la ceinture de la maîtresse des novices se fut abattue pour la dernière fois, ses larmes cessèrent. Quand elle se releva du bureau sur lequel elle était pliée en deux, avec un rembourrage de cuir pour ménager ses entrailles quand même, elle pensa comme d'habitude aux centaines de femmes qui avaient subi le même calvaire. En leur honneur, elle ne fit pas l'ombre d'une grimace, y compris quand sa jupe et son jupon entrèrent en contact avec ses plaies. Acceptant la souffrance, l'invitant en elle, en un sens, elle s'y réchauffa, comme elle se serait réchauffé les mains au-dessus d'une belle flambée par un matin d'hiver glacial. Pour l'heure, entre ses fesses et un brasier, il ne devait pas y avoir beaucoup de différence. Dans le miroir où elle se contempla, elle découvrit un visage typique d'Aes Sedai. Les joues peut-être un peu rouges, mais...
« Comment Chémérine a-t-elle pu être rétrogradée au statut d'acceptée ? »
demanda-t-elle en s'essuyant les yeux.
« J'ai fait ma petite enquête, et nos lois ne permettent pas ça.
» À cause de tes enquêtes, combien de fois es-tu venu me voir ? »
marmonna Sylviana, en rangeant dans sa commode la large ceinture de cuir.
« J'aurais parié que tu renoncerais vite. Je suis curieuse de nature. Pourquoi avoir passé outre nos lois ?
Si les textes n'autorisent pas à déchoir une sœur, ils ne l'interdisent pas non plus. Une énorme faille, ça. Mais n'entrons pas dans ces détails. Si tu insistes, tu y gagneras seulement une nouvelle séance de ceinture. »
Sylviana secoua la tête, puis alla s'asseoir derrière son bureau, les mains posées sur le plateau de bois.
Le problème, c'est que Chémérine a accepté la sentence. Des sœurs lui ont conseillé de l'ignorer. Mais une fois sûre qu'aucune plaidoirie n'infléchirait la position de Laïda, elle a déménagé dans le quartier des acceptés.
L'estomac d'Egwene gargouilla, car elle crevait de faim. Mais son estomac allait devoir attendre. Pour la première fois, elle avait une conversation avec la maîtresse des novices. Une conversation étrange, certes, mais...
Dans ce cas, pourquoi s'est-elle enfuie ?
Ses amis n'ont sûrement pas renoncé à lui mettre du plomb dans la tête. Certaines parlent d'or,
lâcha Sylviana.
D'autres, en revanche.
Avec ses mains, elle imita les deux plateaux d'une balance, les faisant monter et descendre en quête d'équilibre.
D'autres ont tenté de lui forcer la main. En ce temps-là, j'en voyais presque aussi souvent que toi. Ces visites, je les traitais comme une pénitence privée. Mais elle n'avait pas ton...
Sylviana se tut abruptement. Les doigts formant une arche au-dessus de sa main, elle dévisagea un moment Egwene.
Bien joué, ça. Tu m'as poussé à jacasser. Rien d'interdit, bien sûr, mais quand même déplacé dans les circonstances actuelles. Va déjeuner.
Elle saisit sa plume et retira le bouchon d'argent.
Je t'inscris d'office pour midi, puisque tu ne daigneras pas me gratifier d'une révérence.
Egwene crut entendre de la lassitude dans la voix de son bourreau. Un peu plus tard, lorsqu'elle entra dans le réfectoire, la première fille qui la vit se leva en silence. Dans un concert de raclements de pieds de chaise, les autres novices l'imitèrent. En silence, elles restèrent debout, tandis que la prisonnière remontait l'allée centrale. Sans crier gare, Acheline, une altarienne enrobée mais très jolie, se rua vers les cuisines. Avant qu'Egwen ait atteint la porte, Acheline ressortit et lui tendit un plateau lesté de l'habituelle tasse d'infusion et de l'assiette de pain, d'olives et de fromage. Egwen fit mine de prendre le plateau, mais la fille, au teint olivâtre, le porta jusqu'à la table la plus proche, le posa devant une place libre et recula en se formant d'une esquisse de révérence. Par bonheur pour elle, les geôlières rouges ne choisirent pas cet instant pour jeter un coup d'œil dans le réfectoire. Un coup de chance aussi pour toutes les filles qui faisaient une haie d'honneur à Egwen. Sur le siège libre, on avait posé un coussin. Une vieillerie rapiécée, mais un coussin quand même. Avant de s'asseoir, Egwen le prit et le posa au bout de la table. Désormais, accepter la douleur était un jeu d'enfant. Comme si elle avait appris à se réchauffer à la chaleur des feux qui la brûlaient. Un long soupir monta des rangs de novices. Pour s'asseoir, elles attendirent que la prisonnière ait commencé à manger. Egwen faillit recracher l'olive qu'elle venait de glisser dans sa bouche. Comment pouvait-on servir de la nourriture presque pourrie? Affamée après la guérison, elle se contenta de laisser tomber le noyau dans sa paume après l'avoir soigneusement nettoyé. Puis elle se rinça la bouche avec une gorgée d'infusion. Surprise des surprises, la boisson avait un goût de miel. Un délice auquel les novices avaient rarement droit, hors des occasions spéciales. Et Gwen tenta de ne pas sourire, tandis qu'elle vidait son assiette, récupérant même les miettes de pain et de fromage du bout d'un index humecté d'un petit coup de langue. Ne pas sourire lui coûta un gros effort. Le quasi-soutien de Doessin, la lassitude de Sylviana et maintenant la solidarité des novices. Les deux sœurs avaient plus de poids que les filles en blanc et leur miel, mais tout ça allait dans le même sens. Egwen était bien parti pour gagner sa guerre personnelle.